Bienvenue à la French Connection épisode 130. Cet épisode-ci, je suis avec Patrick.
Et salut tout le monde, je suis de retour dans le dessous du banc de neige. J'ai bien vu ça, Nick.
sorti de ta cachette pour nous faire un épisode avec nous autres cette semaine. Commençons avec les Shameless Plugs. Le 10 décembre, Misaka Québec, la journée info nuagique. Très important, on a beaucoup de sujets puis beaucoup d'inquiétudes et de mythes à démystifier avec ça. Fait super intéressant. 19 décembre, c'est la bière de Noël du Québec sec. Donc, allez-y pour vous amuser là aussi et discuter avec vos pères. Le 7 février 2020, la journée cybersécurité 4e organisée par Chawisec. Donc, allez voir sur leur site, c'est dans les show notes. Il va y avoir plus de nouvelles. Là, c'est une demi-journée de conférence et une demi-journée de CTF. Donc, plus de nouvelles vont être annoncées. Puis, on va relier l'information au fur et à mesure. 20 avril, le Sécur du Québec numérique revient. Et finalement, Patrick m'a ajouté quelque chose à aucune date.
Il y a le holiday. En fait, c'est une initiative qui est apparue il n'y a pas longtemps. Un de nos gars sur le CTF, il y a un BBS, un vrai BBS en ligne. Qui rejoint, c'est comme un BBS centralisé. Là. Il y a comme 70 ou 75 nodes de BBS. Puis il a créé un holiday CTF, donc un CTF pour le temps des fêtes. Son BBS s'appelle The Bottomless Abyss. L'URL est là pour vous connecter. Il y a des prix. Il y a même un Black Coin du Hackfest pour avoir accès au Hackfest à vie. Donc plein de challenges de hacking et autres. Pour découvrir comment fonctionnait le BBS, comme dans les années 80-90. Donc, gênez-vous pas pour aller tester ça.
Vraiment old school, vraiment cool, parce que ça me rappelle un peu mes premiers moments en informatique plus sérieuse, mettons, dans lequel je découvrais un peu l'échange d'informations et tout cet univers qui a mené finalement à l'Internet qu'on connaît maintenant.
Yes.
Commençons avec les nouvelles. Je vais commencer avec la mienne, qui est simili-drama, parce que quand on parle d'Apple, il y a toujours du simili-drama autour. Il y a eu une découverte au courant de la semaine dernière, comme quoi, malgré les grandes annonces d'Apple, l'iPhone 11 récupérait de la localisation de façon impromptue. Et bon, l'information n'a pas été clairement divulguée. C'est devenu un drama parce que c'est toujours drôle. Et finalement, Apple a fini par s'expliquer en expliquant que le Ultra Wideband, qui est un protocole de transfert à très courte portée, utilise la localisation pour plusieurs paramètres qui sont associés à ce genre de choses-là. Donc, c'est un système, c'est un service système qui utilise la localisation, même si on ferme tous les autres services, est quand même activé. Donc, simili-drama parce que c'est du local à ce qu'on sait puis tout ce qui est connu. Mais encore là, les gens s'énervent souvent un peu rapidement. On est l'épiderme sensible sur ce genre de choses-là.
Mm-hmm. Là, ça veut dire que, dans le fond, quand tu te connectes à la tour de cellulaire, c'est là qu'il y a de la géolocalisation pour te connecter finalement.
Non, le ultra wideband, c'est le transfert local. Fait que c'est même pas avec la tour, c'est vraiment juste.
OK, même le transfert local. OK.
Oh oui, c'est du transfert local qui est fait local. Fait que c'est juste un système associé à ça. Le seul élément qui est peut-être un peu intriguant là-dedans, c'est que normalement, il sert à vérifier un panoplie de dons, l'autorisation d'utiliser la technologie. Il n'y aura peut-être pas besoin de vérifier aussi souvent que ça, de vérifier si c'est dans un pays qui autorise l'utilisation de cette technologie-là. Mais bon, bref, j'imagine que les choses vont se raffiner avec le temps.
Yes.
Oui. Commence. Puis, tant qu'on est dans le drama, on va aller vraiment à une nouvelle
ça, hyper c'est pas drama. Pire.
Parce qu'il y a un policier qui a hacké volontairement et de façon non autorisée, un poste d'une de ses collègues dans ce cas-ci. Et bon, ça a fini par faire la manchette parce que maintenant, il se retrouve en cours pour ça.
Oui, exact. C'est quand même un dossier qui est très drôle. Puis tu le dis, là, il y a du drama dans ça, dans le sens que tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de tests d'intrusion a été fait par le policier qui aurait dû savoir beaucoup mieux que ça. Ça se passe en 2016. C'est Marc-Olivier Perron qui a mis, dans le fond, la main sur des informations super sensibles d'informateurs. Fait que déjà là, on part avec un bon deux strikes. Là. Je veux dire, ça fait mal comme genre d'information à aller chercher. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il voulait prouver que la sécurité informatique était, ça c'est au service de police de Longueuil, là, le SPAL, que le système de la sécurité était pas bon. Fait que il a décidé ça malheureusement par lui-même. Puis il n'en a pas parlé à personne avant ni après. Et l'enquête a pris 3 semaines à se dérouler, puis il n'en avait pas parlé encore à personne. Donc, même si dans si vous lisez l'article, vous allez voir qu'il dit là en cours qu'il voulait faire ça pour le bien, puis qu'évidemment, il voulait en parler, mais je veux dire, après un mois et quelques, pas d'en avoir parlé avec des dossiers d'informateurs, ça devient louche un peu, là.
Ouais, mais ça revient un peu à ce que la vieille défense que les pseudo-hackers avaient dans les années 2000, on disait « Oh oui, je suis juste curieux, je suis juste allé voir, je n'avais pas de malice, je faisais ça pour le bien, puis tout ça. » On revient exactement au même.
Exact. Là, on recule comme d'un 15-20 ans. Puis ce qui est drôle, c'est que dans la défense de la personne, c'est qu'il est allé dire qu'il agissait en bon hacker. Puis ils ont vraiment utilisé ces termes-là. Pour justement décrire qu'il faisait ça pour le bien, pour sécuriser l'entreprise. Mais le bug, c'est qu'il n'a jamais eu d'autorisation, ni avant, puis il ne l'a pas rapporté après. Fait qu'il n'a même pas fait un responsible disclosure. Parce que oui, des fois, tu peux trouver un bug, puis tu vas dire, ben regarde, là, je suis gentil, oui, puis je te le disclose, puis j'ai aucune intention criminelle. Le problème, c'est que lui, il n'a pas fait cette partie-là. Mais en plus, c'est pas vraiment un bug. Il est allé espionner sa collègue. Il a trouvé que sur... Ça, c'est faut le dire, c'est mauvais. Sa collègue a écrit son mot de passe sur un post-it ou dans un carnet. Puis je vois pas pourquoi elle a fait ça, parce que son mot de passe, c'était QWERTY12. Fait que t'as pas besoin de l'écrire, là, on s'entend.
Effectivement. Il y a un fail au niveau du mot de passe, mais c'est pas une raison, parce qu'un fail...
Non, c'est pas une raison. Ça, c'est juste la partie drôle.
C'est juste drôle.
Fait que là, il a pris le mot de passe de la personne, même si le mot de passe avait été compliqué, il était écrit, il l'a pris, il s'est logué dans le système, il a téléchargé les données, puis il est parti avec les données. Il les a pas mis sur le bureau du boss ou à son bureau, il est parti avec, là. Fait que, fail total, on va voir ce que ça donne en cours, mais tu sais, il y a aucune raison que ça soit légitime, dans le sens qu'il y a eu énormément de temps pour le dire avant puis après, là.
Même au-delà de l'énergie de divulgation, si on peut plaider le fait que la divulgation vient l'absurde d'une partie de ses péchés, il reste que même quand les gentils hackers faisaient ce genre de choses-là, la justice n'était pas clémente avec eux autres de toute façon.
Non, exact.
Parce que de toute façon, il a fait un geste qui initialement était illégal, même si t'es responsable, machin. Là, c'est allé loin. Là. Il était dans les locaux physiques de la police dans lesquels il est allé hijacker un mot de passe de quelqu'un d'autre pour une utilisation illicite des informations. C'est catastrophique pour cet individu-là. Là.
Non, exact. Puis il faut le dire, tu sais, c'est pas un bug qu'il a trouvé puis il l'exploite pas. C'est qu'il l'exploite puis il exfiltrate du data. C'est 3 étapes de trop. Là. Parce que tu sais, trouver un bug, tu disais, il y en a un là, mais là... Je ne l'ai pas exploité, je ne suis pas rentré dans vos systèmes. Puis si on parle de bug bounty, tu as l'autorisation de rentrer dans le système, mais il faut que tu arrêtes là. Tu n'es pas supposé de pivoter à l'interne. Mais lui, il n'a pas d'autorisation. Il exploite, il rentre en dedans, il vole les données, puis il s'en va avec les données. Fait que.
C'est ça, puis il ne fait rien. Il dit, on ne connaît pas ce qu'il fait avec les données. Puis c'est ça, il n'est pas explicitement autorisé. Là. Tu ne peux pas faire ça si tu n'as pas d'autorisation. On fait juste se rappeler le cas des 2 pauvres bougres qui se sont fait prendre dans un pentest physique dans une cour de justice aux États-Unis, dans lesquels il y a eu un problème d'autorité et que le scope, la portée de l'engagement, en tout cas du mandat, avait été mal comprise ou mal définie au contrat. Puis ben là, les deux bonhommes, c'est un peu triste. Fait que c'est, eux autres étaient théoriquement mal compris la portée puis se sont fait avoir. Là, en tout cas, dans un cas qui n'a pas d'autorisation, puis il fait n'importe quoi à sa tête. Puis de toute façon, quand on lit l'article, on voit clairement, puis tu le dis aussi, là, dis, oui, c'est la seule façon de faire comprendre aux gens que c'est vulnérable, il faut casser les systèmes. C'est quoi ça? Ça revient avec des espèces de vieilles stratégies de hackers qu'on avait dans les années 2000. On fait pas ça, là, c'est mal.
Non, exact. Là, ce qui rend le tout encore pire de ce cas-là, parce qu'évidemment, en justice, tu as souvent le concept de « Ah, c'est ta première fois, on va t'alléger ça. »
Mais si vous faites une recherche du nom de la personne, il y a eu beaucoup, beaucoup d'antécédents de, qui s'est fait prendre avec des mauvaises actions à la police. Et même dans l'article de cette attaque-là, il y a une partie qui dit qu'ils ont retrouvé dans son bureau une méthode pour rentrer dans la voûte où ce que les informations confidentielles du poste de police. Puis là, lui, il se défend en disant qu'il n'est jamais allé là, mais je veux dire, il y a... Il y avait comme la méthode écrite là, dans ces choses pour savoir comment bypasser la sécurité de ça. Donc, ça l'aide pas vraiment son cas, en plus de d'autres infractions là, qui a déjà été coupable dans le passé. Donc, ça regarde très mal ici. Là.
Ouais, effectivement, on vient à un cas de cible de ce qu'on voyait dans les années 2000. Là. C'est vraiment là, le cas de textbook des années 2000, la défense, le gars qui se croit... autorisé à faire tout et n'importe quoi, parce que, tu sais, on le voit dans l'article, c'est comme le whiz kid, le gars super brillant en informatique, tout ça, machin. Exactement le même pattern, ouais. Exactement la même histoire qu'on voyait dans les années 2000 ou 90 dans certains cas. Là. C'est pareil. Fait que, t'sais, moi, j'ai aucune clémence pour ce genre de choses-là. On s'est fait assez salir le nom des gens qui travaillent en sécurité à cause de ça. Là, moi, j'ai zéro pardon pour ça. Puis en plus, il serait supposé le savoir.
Ah, c'est sa job de faire ça, je veux dire. c'est ça le bug. Là. Il est supposé de connaître la loi, puis en plus que tout le monde est supposé de connaître la loi, et c'est lui qui l'applique. Là. Fait que, tu sais, come on. Là. Aïe, aïe, aïe.
Ben oui. Puis c'est ça. Puis tu veux dire, pour travailler en sécurité énormément, toi aussi, tu as dû avoir des enquêtes de sécurité à passer, s'assurer qu'on est un dossier propre, des choses comme ça, justement parce que c'est la base même de la confiance. Et on touche tellement dans les systèmes qu'on n'a pas le choix. Là. C'est farfelu tout ça.
Oui, tout à fait. Donc, on va sûrement avoir une suite, en fait, à ça.
Ben, j'espère qu'on va l'entendre parler encore. Là.
Il faut.
À la limite, j'aimerais quasiment qu'on fasse un exemple public de ça parce que ça va calmer un peu les nerfs de bien des gens qui se croient tout puissants dans leur sous-sol. Ça leur aurait une bonne chose de refroidir un peu les ardeurs de bien... de toutes ces personnes-là.
Tout à fait.
Donc, passons à la nouvelle suivante. Il y a eu une commission parlementaire sur la fuite de données, qui a été, dans le fond, ultimement initiée par Desjardins, mais il y en a eu quand même une panoplie d'autres par la suite. Fait que ici, le gouvernement décide de faire une commission parlementaire à ce sujet-là, et malheureusement, là, ce qui en sort n'est peut-être pas satisfaisant.
Ouais, c'est un peu plate. Je veux dire, bien, c'est surtout décevant dans le sens que c'est le plus gros dossier de l'année, voire des dernières années. La brèche de sécurité, le gouvernement a décidé de faire une commission et vous en avez sûrement entendu parler, là, les experts sur la commission, il y en a juste eu un, même si le gouvernement avait une liste de 5 à 8, je crois, à peu près, experts à interviewer. La personne qui a été interviewée, bien, dans les médias, ça a sorti qu'elle se faisait financer par Desjardins, donc ça a l'air louche. Durant la commission, la personne n'a pas voulu parler de Desjardins en plus à cause de ça. Donc, tu sais, par défaut, la commission n'a techniquement pas servi son rôle. Et là, on se ramasse avec un rapport qu'on mettra le lien là, dans les show notes. Allez lire ça. Et le rapport n'a aucune recommandation, juste des observations. Puis ce qui est plate, c'est que les observations qui sont là, c'est ce qu'on disait la journée même presque ou les semaines suivantes, l'attaque de Desjardins dans les médias, moi, Steve Waterhouse, autres. Tout le monde avait les mêmes observations. Fait qu'on a fait une belle commission qui se ramasse avec pas mal du contenu déjà connu et rien de spécial. Fait que c'est dommage parce que ça aurait pu être beaucoup plus, beaucoup mieux pour avancer les choses. Mais en même temps, si on passe tout de suite à la nouvelle suivante, suivant la commission, ben, y a un projet de loi qui sort. Donc, on n'est pas à 100% à zéro. Ça n'a pas été pour rien. Mais on a un projet de loi sur le vol d'identité qui a été mis en place. Je ne sais pas s'il a été voté correctement ou pas, là, mais qu'ils veulent faire comme aux États-Unis avec le crédit. Ils veulent forcer un lock sur le crédit pour avoir une autorisation à chaque demande de crédit, etc. Mais malheureusement, il ne sera pas gratuit comme aux États-Unis. Ça va être un service qui est payant puis qui ne sera pas, je crois, par défaut si tu ne payes pas pour. Donc, c'est un bon pas dans la bonne direction, mais on aurait pu bien faire mieux que ça, là, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, tout ce qu'on sait qu'on peut faire.
On est encore pogné dans quelque chose d'ordinaire, malheureusement.
Ah, ben c'est ça. On est tout le temps un peu en retard. Là. C'est un peu triste tout ça. Là. De toute façon, un, que ces commissions-là apparaissent si tard que ça, qu'on n'ait pas appris, disons, de l'expérience américaine, qui ça fait déjà plusieurs années qu'ils subissent ces genres de choses-là, qui mettent des mesures imparfaites, on va s'entendre, mais quand même, il y a un geste des pas qui sont faits à lesquels nous, on ne fait pas, ou même à la limite, calquer sur le modèle européen qui est en techniquement plus en avance que le modèle américain sur la protection de l'individu. Le GDPR est un exemple, même si il y a des forces et des faiblesses à cette loi-là, et Damien a commencé à relever un certain nombre de faiblesses et de problèmes liés à cette loi-là, qui va probablement nous entretenir davantage dans les mois qui s'en viennent. Mais minimalement, il y a un geste qui est fait, il y a une protection, il y a une volonté qui est exprimée. Là, la volonté me semble un peu faible dans ce cas-ci. Je sais, t'as la loi que t'es pour le LOC, mais il serait censé aussi, je pense, la ministre de la Justice est censée déposer une loi qui va calquer la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels, qui va moderniser cette loi-là. Et la conséquence, puis je l'ai souvent parlé, tant avec Jean-François Derico, c'est bien d'avoir une loi, mais il faut avoir les moyens de l'exécuter, la loi, puis il faut avoir les budgets pour l'exécuter, puis d'aller jusqu'au bout. Et je trouve ça malheureux parce que, comme ça, la vie privée du Québec ne doit pas s'appeler comme ça, pas en tout, n'agit pas beaucoup, pas parce qu'il n'y a pas de loi ou que sa loi est un peu faible, mais en même temps, c'est qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les capacités de l'exécuter. Donc, fait que ça, puis j'ai hâte de voir sur le grand picture si cette loi-là va. La loi spécifique que tu fais référence va avoir un effet réel ou va être juste un petit morceau modulaire qu'on fait juste patcher un trou dans
le défaut, c'est ça le bug, tu sais. Fait que faut encore rappeler Equifax. Fait qu'il faut que tu aies 5 millions de personnes qui rappellent, puis qui repayent. Puis tu sais, il faut le dire, là, Equifax, c'est leur meilleure année à vie depuis genre 20 ans, là, à cause de la brèche, t'as déjà.
Ben, ça devrait être à la limite un service public là, rendu là. Ouais. Là maintenant, en 2020, ce qui est à nos portes, on devrait avoir un service public qui finance. Ça fait partie de la vie quotidienne d'un citoyen du 21e siècle. Une protection du crédit parce qu'on vit dans un ère où on a construit un système d'identité du crédit d'une autre époque. Fait qu'on bolde des choses dessus, dont la surveillance de crédit, pour s'assurer qu'on se fasse pas.
Non, tout à fait.
Pas se faire frauder.
Tout à fait.
Et restons dans le monde financier. Desjardins a annoncé cette semaine, ou la semaine passée, quand vous allez écouter, le déploiement d'un deux facteurs pour augmenter son niveau d'authentification à sa plateforme. Ça a des plus et des moins.
Oui, exact. Ça fait plusieurs mois, voire années, qu'il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui demande aux banques de mettre des deuxièmes facteurs d'authentification en place. Desjardins vient de le faire là, dans les derniers jours, semaines. C'est la deuxième banque au Canada à le faire. Donc, c'est très bien. Le bug, ben, c'est qu'ils ont mis en place le SMS. Qu'on sait que le SMS peut, pas peu, mais est vulnérable aux attaques là, de SMS hijacking, SIM card hijacking ou swapping, qui est le concept que tu appelles finalement quand tu connais le numéro de la personne, tu appelles son fournisseur de téléphone, tu te fais passer pour la personne et tu dis hey, j'ai une nouvelle SIM card, pouvez-vous transférer mon numéro sur ce numéro de SIM card-là? Et tu contrôles le téléphone de l'autre personne, tu vas faire les resets ou les demandes de code SMS et tu vas avoir accès au compte. Donc, on a discuté de ça beaucoup sur le Slack avec du monde qui était sur Desjardins, puis il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires en ligne là, sur Facebook, LinkedIn et autres. Et ce qui en est ressorti, c'est que le threat model de Desjardins, principalement, puis ça, c'est pas juste Desjardins, je veux dire, la majorité des compagnies financières, là, puis je veux pas qu'on bâche sur Desjardins, c'est le concept des banques, puis que ce soit les assurances, les banques et autres. C'est qu'eux se font targeter énormément par du phishing. Fait que tu sais, ils reçoivent des millions, leurs clients reçoivent des millions de phishing. Fait que tu sais, si tu as 1% qui clique dans ça, puis qui vont se connecter dans le compte avec leur user password, ils volent beaucoup d'argent.
là, ben, en mettant un SMS, ce que je me suis fait dire, ben, c'est que c'est pas grave parce que même si le SMS est poche en tant que tout est fait, ben, un hacker pourra pas aller faire du mass phishing sur tout le monde puis réussir parce qu'il faut que fasse le social engineering avec la compagnie de téléphone. Le bug, c'est qu'il est pas par défaut. Si vous vous connectez sur votre XD, et il ne vous le demande pas de mettre le SMS en place. Il faut que vous ayez le configuré vous-même. Il faut que vous sachiez que ça existe. Donc, techniquement, si c'est du opt-in, ben, on n'a pas d'avantage. Là. À part nous, qui sont ex-avis, le monde à qui on parle, là, ils vont le faire.
Fait que pour les auditeurs, on a eu un petit problème technique. Fait que Patrick va essayer de reprendre. Bon, ce qu'on aussi dans le montage, voir que ça soit le moins visible possible cet épisode hasardeux technologiquement.
Yes, donc on parlait de SMS et TOTP. Dans le fond, le TOTP est mieux que le SMS. Fait que tu reçois un code dans ton application mobile qui tu le rentres dans le site web et ça te permet de t'authentifier. Puis tu peux pas avoir de concept de te faire hijacker à moins que quelqu'un vole ton cellulaire puis l'accès à ton cellulaire, etc. Donc c'est quelque chose que tu possèdes vraiment versus le SMS que oui, tu le possèdes, mais que tu peux appeler la compagnie puis te faire switcher ton numéro de carte. Fait que là, en concept, c'est bien, je comprends, mais puisque ce n'est pas activé par défaut pour tout le monde présentement, on reste avec un problème que la majorité qui ne connaissent pas ça, qui ne sont pas au courant que ça existe, ne l'activeront pas. Puis même vous qui écoutez ça, sûrement vous apprenez qu'il y a du tout effet en place parce qu'il n'y a pas eu une méga publicité reliée à ça. Mais là, ce qui est louche, c'est que tu as une page web, puis vous allez voir, les deux sont dans les show notes, tu as une page web qui parle de SMS et TOTP pour faire l'authentification. Puis tu as une deuxième page qui parle de SMS et de push notification, qui est encore mieux qu'un code TOTP. Le push, c'est dans ton application, tu reçois un oui, non, est-ce que c'est bien vous qui se connectez présentement? Donc, si quelqu'un vous fiche puis vous recevez une notification puis vous n'êtes pas vraiment en train de vous connecter, vous pouvez faire un non. Il y a quelqu'un qui a volé mon password puis qui essaie de se connecter pendant que je ne suis pas sur l'ordinateur. Fait que ça fait un report de fraude. Puis des gens disent ben, appelez-nous tout de suite. Puis là, tu te fais transférer au système de fraude, etc. Les deux options existent, ne sont pas à la même place puis ils n'ont pas l'air d'être configurés de la même manière. On n'a pas trop compris encore, là. On n'a pas eu le temps de faire les tests 100% complets. Mais c'est ça, il y a l'air d'avoir un petit bug de ce côté-là. Puis l'autre chose, ben, il y a des personnes qui l'ont essayé, la partie SMS, TOTP. Puis quand tu le configures, puis que tu choisis le TOTP, le code, puis tu vas dans la page web t'authentifier, il t'offre encore la possibilité de le pousser par SMS. Donc même si vous connectez, puis vous avez dit que vous choisissez l'option code, ben moi, si j'ai votre mot de passe, votre user, puis je rentre, ben je peux dire « Hey, j'ai swappé ta SIM card, envoie-moi le code par SMS, même si tu avais choisi l'autre. » Fait que là, il y a un petit problème d'implémentation qui teste ce niveau-là. Ça arrive, ça va sûrement se faire régler. Mais c'est ça. Deuxième banque au Canada à avoir du SMS, pas du SMS, excuse, du tout effet. On espère que la dizaine d'autres suivent et qu'on continue comme ça.
Bonne direction, cela dit, puis j'ai... Tu le mentionnais plus tôt, le threat model là-dessus, c'est la chose de masse, effectivement. Ça va être utile dans la mesure où je suis particulièrement ciblé pour un ton. Ça protège contre les attaques de masse, mais ça ne protège pas contre les attaques ciblées.
Exact.
On l'a vu dans le cas de Twitter, entre autres, où son président a été ciblé. Fait que là, lui, spécifiquement, sa carte a été swappée et tout. Fait que là, ils l'ont utilisé comme ça. Dans un cas où un individu lambda, la probabilité est moindre parce qu'il faut connaître le numéro de cellulaire qui est associé au numéro du compte, puis ainsi de suite. Bon. Le kill chain est plus compliqué, mais il n'est pas impossible. C'est pas, ça protège pas, peut-être, pour nous, professionnels de sécurité, on trouve ça peut-être pas à la pleine distance qu'on aimerait. Là.
Ouais, exact. Puis tu sais, prends le scénario. Là. Mettons, Nick, tout le monde sait qu'évidemment, tu as 20 millions dans ton compte de banque. Donc, Nick rit.
J'ai failli m'étouffer. Là. Pourquoi faire ça? Changer d'eau, là. C'est mal.
Mais tu sais, si on prend l'exemple que tu as 20 millions dans ton compte de banque, que c'est quelque chose de connu, puisque tu as une méga entreprise, tu es riche, tu es public. Il y en a plein de personnalités au Québec là, qui sont riches, qui doivent utiliser Desjardins. Trouver le numéro de téléphone de quelqu'un,
pas quelque chose d'impossible. Là. C'est très simple. C'est ce que Jack Dorsey de Twitter, il s'est fait trouver son numéro de cellulaire, puis il se l'est fait swapper. C'est un kid de 16 ans qui l'a fait. Là. Fait que, tu sais, si quelqu'un est riche puis qui veut voler de l'argent chez Desjardins, puis c'est un SMS qui est là par défaut pour le 2FA, c'est un détail. Là. C'est une attaque targetée. Là.
Donc, en fait, non, je n'ai pas 20 millions, mais je me considère pas que je ne serais pas une cible à ce genre de choses-là. Mais ultimement, c'est excessivement facile de trouver le numéro de cellulaire. Tu fais un peu de routine de toute façon, puis on arrive rapidement à trouver pas mal de
genre,
choses.
C'est du social, tu parles à d'autres mondes. Au pire, tu fais une joke, tu fais croire un scénario que tu veux avoir parlé à cette personne-là parce que tu as quelque chose à y vendre, whatever. Tu sais, là, les contextes de social engineering sont énormes et faciles à faire, là.
De toute façon, fais juste regarder ce qui s'est passé au concours de social engineering ou Hackfest, à quel point tout ça est facile à mettre en œuvre. La barrière augmente, par exemple, c'est ce qui a été le fun de constater. On voit quand, tranquillement que c'est de plus en plus difficile, mais il demeure que c'est quand même assez facile. Et quand on tombe à des gens, surtout, là, tu parles de gens riches, il y a la catégorie des gens d'affaires qui sont un peu plus difficiles à avoir, et tu as toute la catégorie des gens, les célébrités, qui, eux, fondamentalement, pour la plupart, aiment l'exposition publique, dont
ils font de l'argent avec ça.
Et dans cet univers-là de divulgation peut-être un peu plus grande qu'il devrait, puis ça devient compliqué. Même si plusieurs vedettes font des très grands efforts, la séparation entre les deux est quand même difficile. Puis dans un monde où tout est fluide, c'est pas évident. Là.
Non, tout à fait. Fait que on verra ce que ça donne. En gros, mais c'est ça. Fait que la journée... Le bug aussi avec la technologie 2FA d'aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas 100% plug and play pour monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas texté à vie. T'sais. Fait que même un push notification sur un cellulaire, si tu connais pas ça un peu, si tu te débrouilles pas, aller le configurer, installer l'application, faire le screenshot, whatever, pour faire le lien de ton cellulaire jusqu'au serveur. Puis après ça, ben de savoir qu'il faut que ce message-là apparaisse. Mais c'est sûr que si vous regardez dans votre famille toutes ces étapes-là, le trois quarts du monde ne le feront pas. Là. Fait que là, ce qui s'en vient, puis ça, c'est un ancien podcast qu'on en fait, là, je pense que c'était le 76 ou dans ce coin-là. On a parlé du WebAuthn avec la gang de Duo, qui est une authentification sans mot de passe, que tu cliques une couple de place, puis tout se fait magiquement par en arrière avec des certificats. Quand ça va être publié partout, puis peut-être même la technologie après qu'ils trouveront, mais là, ça va être simple, là, parce que par défaut, tu as juste une petite config à faire, tout est transparent ensuite. Mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup de steps pour faire une sécurité. Donc, évidemment, c'est une autre des raisons de pourquoi ils ont mis le SMS en place. C'est pour le monde qui sont moins tech-savvy, c'est plus simple de recevoir un SMS qu'un push notification.
Ça rejoint plus de monde, puis mais encore là, même le SMS, la barrière à l'entrée est quand même assez haute pour les gens normaux, les qui ne sont pas taxés à vie, justement. Donc, c'est très difficile. Puis là, c'est là on tombe dans une espèce de zone où on l'a vu avec Desjardins cet été, où il y a eu un énorme effort de sensibilisation et de formation publique généralisée. Puis ça leur a coûté quand même assez cher, là, tout ce que ça a comporté. Et je pense qu'il va devoir avoir une autre étape pour ce genre de choses-là aussi, pour amener les gens à avancer une étape plus loin, pour maîtriser plus, puis que ça ne soit plus juste dans les mains des gens connaissants, mais que ce soit dans les mains de tous les gens, ce genre de fonctionnalité-là.
Oui, exact. Fait que, comme je dis, c'est un super bon pas par en avant. Très heureux qu'il y ait une deuxième banque, puis on espère que les suivantes vont embarquer dans le pas de mettre du 2FA. De faire de la pub là-dessus, de la sensibilisation, etc., parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Puis on va sûrement en reparler prochainement quand ça risque d'être plus public, tout cela.
Ouais, ça aussi, ça va être une nouvelle qu'on va continuer à suivre. De toute façon, la sécurité est un feu roulant, puis heureusement ou malheureusement, à l'heure actuelle, la sécurité est devenue sexy. Et pourtant, en tout cas, bref, le cœur même de ce qu'on fait n'est peut-être pas tant sexy que ça, mais il y a comme un sexiness qui est tout d'un coup, ou un intérêt généralisé à ce genre de choses-là. Mettons que si ça peut bénéficier à la relève, aux gens que ça pourrait intéresser. Très, très bon plan. Donc, ça complète les nouvelles de cet épisode-ci, malgré les petites difficultés techniques qu'on a rencontrées en plein milieu. Ça termine aussi pas mal l'année. C'est l'avant-dernier épisode officiel avant la fin de l'année. On va enregistrer d'ici la fin, normalement, fin de l'année, l'épisode récapitulatif pour 2019, avec un espèce de regard en avant vers où on s'en va en 2020, considérant que c'est une très grosse année en 2019 en sécurité. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses au niveau mondial, puis même au niveau local, au niveau québécois. Une prise de conscience très importante. C'est très, très intéressant de voir comment les choses vont débouler. Puis on a même notre gouvernement québécois qui a pris des initiatives très importantes, structurantes en sécurité, qui, j'ose espérer qu'en 2020, on va commencer à voir émerger les premiers bourgeons de cette initiative-là pour améliorer la sécurité générale de notre appareil gouvernemental. Sur ce,
à la prochaine! So